Introduction à l'étude de la prophétie. Cinquième partie. L'état éternel. Introduction. Nous abordons maintenant la dernière phase des événements prophétiques. Celle-ci s'ouvre immédiatement après la révolte qui suit le millénium. Le ciel et la terre seront détruits, et Christ s'assiera sur le grand trône blanc pour juger les hommes qui sont morts dans leurs péchés. Ils seront ressuscités par la puissance de Dieu, jugés selon leurs œuvres, condamnés et jetés dans l'étang de feu. Puis la mort sera à son tour anéantie. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le péché ne souillera pas cette nouvelle création dans laquelle Dieu habitera avec les hommes. Toutes choses auront été réconciliées avec lui. Tout sera en parfaite harmonie avec sa sainteté. Son amour aussi, auquel plus rien ne viendra faire obstacle, remplira la création et partout régnera une félicité sans mélange et sans fin. Christ aura remis son royaume à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tous. Telles sont les grandes lignes du sujet dont nous allons aborder l'étude. Chapitre 1er. Le grand trône blanc. Premièrement, nous lisons en Apocalypse 20, versets 11 et suivants.
Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel. Et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu.
Quelle scène solennelle! Alors que les morts en Christ ressusciteront à la venue du Seigneur, et avant l'établissement du règne millénaire, ceux qui ne sont pas sauvés demeureront dans leur tombeau, et seront ressuscités seulement après le millénium, pour comparaître devant le grand trône blanc. C'est l'heure du règlement de compte. Et sur ce trône, Christ lui-même est assis, remplissant les fonctions judiciaires que le Père lui a confiées.
Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5, versets 22 et 27. Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. Romains 2, verset 16. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 10, verset 42. Il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Acte 17, verset 31. Le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, de Timothée 4, verset 1.
Tous comparaîtront devant lui, les petits et les grands de ce monde, pour recevoir le juste châtiment que mériteront leurs œuvres. Il ne s'agira plus d'être manifesté, comme nous le voyons en 2 Corinthiens 5, verset 10, pour les rachetés, envers lesquels sera mise en évidence la grâce qui aura purifié tous les péchés par le sang de Christ, et produit quelque bien pour Dieu.
2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. »
Ici, il faudra que chaque impie réponde de ses actes, sans pouvoir aucunement compter sur la grâce qu'il aura pu refuser de son vivant. Aucun racheté du Seigneur ne se trouvera parmi ces malheureux.
En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24.
Pour ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus, il n'y aura plus aucun espoir, car ils auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Deuxièmement, tout homme aura affaire à Dieu, soit en Christ, c'est-à-dire en étant au bénéfice de son œuvre rédemptrice, soit selon ses œuvres. Or, ceux qui paraîtront devant Dieu en s'appuyant seulement sur leur propre mérite subiront une condamnation certaine et juste, car leurs œuvres ne pourront supporter la lumière divine. Le jour de la grâce sera passé, et tout sera apprécié selon les exigences inflexibles de la justice et de la gloire de Dieu. Les morts seront jugés d'après les choses écrites dans les livres. Il s'agit là d'une image, mais combien évocatrice, rien ne sera oublié, tout sera remis en mémoire, et ce rappel suffira à convaincre les morts de leur culpabilité et de la justesse de leur condamnation. Même les péchés secrets seront jugés.
Tous ceux qui ont péché seront jugés au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. Romains 2, verset 16.
Les paroles aussi, et non seulement les actes.
Et je vous dis que, de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de jugement. Car par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, verset 36.
Personne ne pourra se disculper, et toute bouche sera fermée. Ce sera
la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, versets 5 et 6.
Troisièmement, mais qu'adviendra-t-il de ceux qui n'auront jamais entendu l'Évangile ? Tout d'abord, il faut se souvenir que Dieu a parlé de tout temps aux hommes par les œuvres de la création et par le moyen de la conscience.
La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites,
la création,
de manière à les rendre inexcusables. Romains 1, verset 18 à 20.
Ainsi, l'homme peut percevoir, par la seule contemplation de la nature, la puissance éternelle et la divinité de Dieu, et cela suffit à le rendre inexcusable de vivre dans l'iniquité. Mais, de plus, Dieu a imprimé dans la conscience humaine les principes fondamentaux de la loi, par la notion du bien et du mal que possède tout être humain, si primitif soit-il.
Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur, leur conscience, rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. Romains 2, versets 14 et 15.
Or, tous les païens ont désobéi à la vérité qui leur a été révélée par ce double canal, et la parole déclare qu'ils sont inexcusables devant Dieu. Mais cela ne signifie pas que tous les hommes seront punis dans la même mesure. Ceux qui n'auront pas entendu l'Évangile ne seront pas châtiés aussi sévèrement que ceux qui, l'ayant ouï, l'auront refusé. Le Seigneur lui-même déclare.
Or cet esclave, qui a connu la volonté de son maître et qui n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Et celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Luc 12, versets 47 et 48.
Il affirme, d'autre part, que la génération qui, ayant vu ses nombreux miracles et entendu son message de grâce, l'a rejeté, sera frappé plus sévèrement, au jour du jugement, que les pécheurs de Tyr et de Sidon.
Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Matthieu 11, versets 21 et 22.
Il prononce la même condamnation à l'égard de Capernaum par rapport au sort de Sodome, versets 23 et 24. Enfin, il déclare à ses disciples, au moment où il les envoie prêcher en Israël, que le sort de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement que celui des villes qui refuseraient de les recevoir, Matthieu 10, versets 14 et 15.
Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là.
Ces passages montrent que le Seigneur jugera avec équité et en tenant compte du degré de culpabilité et de responsabilité de chaque pécheur. D'ailleurs, Dieu se révèle comme le Dieu sauveur aux âmes qui le craignent, ainsi qu'en font foi les conversions de Corneille et de l'eunuque éthiopien. Acte 10, versets 19 et 20.
Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. »
Acte 8, versets 26 à 29.
Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi, et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, sans retourner. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, psaume 112, verset 4.
Les pécheurs repentants de l'ancienne alliance pouvaient être assurés du pardon de leurs péchés en vertu de l'œuvre expiatoire de Christ, dont ils bénéficiaient par anticipation. Voyez l'exemple de David, adultère et criminel, exprimer la certitude du pardon au psaume 32.
Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été, c'est là. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché, c'est là. C'est pourquoi tout homme pieux te priera aux temps où l'on te trouve. Certainement, en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l'atteindront pas. Tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'entoures des champs de triomphe de la délivrance, c'est là. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Le méchant a beaucoup d'afflictions, mais l'homme qui se confie en l'Éternel, la bonté l'environnera. Réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous juste, et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.
Dieu usait de patience et supportait les péchés précédents parce qu'il allait manifester sa justice en frappant Christ à la croix. Romains 3, verset 25.
Jésus-Christ, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu.
Il use encore de patience,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, de Pierre 3, verset 9.
Dieu dispose de moyens nombreux et que nous ne connaissons pas toujours. Sa grâce, son amour envers les pécheurs et la puissance qu'il déploie pour les amener au salut par la foi en Jésus sont infiniment plus étendus que nous ne le soupçonnons, et aucun de ceux qui seront condamnés au jour du jugement ne le sera à tort. Quatrièmement, un autre livre sera ouvert, le livre de la vie. ce ne sera pas pour y inscrire le nom de qui que ce soit, mais pour rappeler aux pécheurs qu'eux aussi auraient pu y être inscrits et échapper ainsi à l'enfer s'ils n'avaient pas méprisé la grâce de Dieu. Il ne s'agit donc pas non plus de vérifier si le nom de quelque réprouvé pourrait, contre toute attente, se trouver dans le livre de la vie. Non, aucun de ceux dont Dieu a écrit le nom dans ce livre ne comparaîtra devant le grand trône blanc. Ayant cru en Jésus, ils ne viendront pas en jugement. Jean 5, verset 24.
En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, verset 1.
Plusieurs autres passages parlent du livre de la vie. Psaume 69, verset 28.
Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes.
Philippiens 4, verset 3.
Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie.
Apocalypse 3, verset 5.
Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Apocalypse 13, verset 8.
Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage.
Voir également Luc 10, verset 20.
Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Et Hébreux 12, versets 22 et 23.
Vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, et à Dieu juge de tous, et aux esprits des justes consommés.
Quiconque n'y est pas inscrit est irrémédiablement perdu. Lecteur, votre nom figure-t-il dans ce livre? Si tel est le cas, vous pouvez vous réjouir, car le Seigneur déclarait à ses disciples
« Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. »
Sinon, n'attendez pas, mettez-vous sans délai en règle avec Dieu, car la parole est formelle.
Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15.
Le refus de la grâce divine aggrave considérablement la condamnation des pécheurs.
Celui qui croit en lui,
le Fils de Dieu,
n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18.
Hélas, pour ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc, il y aura une condamnation inexorable et définitive. Ils seront jetés dans l'étang de feu. Chapitre 21, verset 8 précise les chefs d'accusation qui leur attireront ce châtiment.
Mais quant aux timides,
c'est-à-dire ceux qui n'auront jamais voulu se décider franchement pour Christ,
et aux incrédules,
c'est-à-dire ceux qui auront refusé le salut,
et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort.
Telle est la juste sentence qui sera rendue par le Seigneur contre tous ses coupables. Cinquièmement, que faut-il entendre par l'étang de feu? C'est le lieu qu'on appelle communément l'enfer, terme qui ne se trouve toutefois pas dans la parole de Dieu. Celle-ci contient cependant plusieurs passages décrivant l'horreur sans nom de ce lieu et les tourments des malheureux qui y sont enfermés. Il est présenté en Ésaïe 30, verset 33, sous l'image d'un bûcher de feu allumé par le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre.
Car Tophet est préparé depuis longtemps, pour le roi aussi il est préparé, il l'a fait profond et large, son bûcher est du feu et beaucoup de bois, le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'allume.
En Luc 16, verset 24, le riche en Hadès crie à l'aide en disant qu'il est tourmenté dans cette flamme, et pourtant il n'est pas encore dans l'étang de feu. le Seigneur exprime les tourments de ceux qui sont jetés dans la géhenne de feu en déclarant que leur ver ne meurt pas et que là le feu ne s'éteint pas. Marc 9, verset 48.
Là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas.
Voir aussi Matthieu 25, verset 41.
Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. »
Et Hébreux 10, verset 27.
Mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires.
Daniel, lui aussi, annonce le jugement dernier et décrit la terrible condition des damnés.
Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle,
c'est la première résurrection,
et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Chapitre 12, verset 2.
Ce lieu est aussi celui des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, verset 42 et 50. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents.
Verset 50, et les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents.
Matthieu 22, verset 13.
Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Le lieu des ténèbres de dehors, Matthieu 8, verset 12 et 22, verset 13.
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Matthieu 22, verset 13.
Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et mains, et emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Ce mot « dehors » exprime l'éloignement total et définitif des damnés, hors de la présence et de la lumière de Dieu. Être dehors, derrière une porte fermée à jamais, voilà ce qui attend les incrédules.
Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que, répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Luc 13, versets 25 à 27.
Lire aussi Apocalypse 22, verset 15.
« Dehors sont les chiens et les magiciens et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. »
C'est encore un lieu de tourment, Apocalypse 14, verset 11.
Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom.
Apocalypse 20, verset 10.
Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Lesquels consisteront en une destruction éternelle, de Thessaloniciens 1, verset 9, de Pierre 2, verset 1, sous la malédiction de Dieu, Matthieu 25, 41.
De Thessaloniciens 1, verset 9, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force. De Pierre 2, verset 1, or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple. Comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction.
Matthieu 25, verset 41.
Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges.
Cet état épouvantable est appelé la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14.
Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu.
Apocalypse 21, verset 8.
Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort.
Tandis que la première mort aura banni ces méchants de la vie terrestre, la seconde mort les précipitera dans l'étang de feu, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quelle terrible condition! Toutes les images que la parole emploie pour la décrire, feu éternel, ver rongeur, honte éternelle, pleurs et grincements de dents, ténèbres de dehors, destruction éternelle, etc., expriment la souffrance indicible, le remords, l'angoisse, qui étreindront les réprouvés à la certitude qu'ils seront à tout jamais séparés d'avec Dieu. À ces souffrances morales s'ajouteront peut-être des souffrances physiques, puisque les impies ressusciteront, avant de comparaître devant le grand trône blanc. Ils recevront donc un corps avec lequel ils s'en iront dans l'étang de feu, tandis que les rachetés seront tous revêtus d'un corps glorieux, semblable à celui du Seigneur, et jouiront, durant l'éternité, de la présence de Dieu, dans la lumière, la félicité et la gloire céleste. Les impies subiront d'indicibles souffrances, dans une séparation consciente et définitive d'avec Dieu. Voilà ce que sera la seconde mort. Ce qui aggravera les tourments de ces morts, c'est qu'ils garderont leur conscience et leur mémoire. Comme le riche de Luxèze, ils sauront qu'il y a un lieu de félicité, dont l'accès leur sera interdit par un abîme infranchissable. Un terrible sentiment d'abandon, la conviction d'être sous un jugement pleinement mérité, l'amertume et le remords produits par la certitude qu'il eût été possible d'échapper au châtiment en croyant tout simplement au Seigneur, l'angoisse d'un supplice qui ne finira jamais, l'éloignement éternel de la présence de Dieu, lui qui aura tout fait, tout donné pour sauver les pécheurs, mais qui se sera retiré de ceux qui auront méprisé son salut et les abandonnera à eux-mêmes, à jamais, dans les ténèbres de dehors, voilà l'enfer. Jour et nuit, au siècle des siècles, ils seront tourmentés. Quel sort épouvantable et combien il importe de saisir sans retard le salut merveilleux que Jésus offre gratuitement à tous les pécheurs. Et pour ceux qui sont sauvés, il est un autre devoir, annoncer aux pécheurs la bonne nouvelle du salut par grâce.
« Malheur à moi si je n'évangélise pas !»
s'écrie l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9:16. Suivons son exemple et rappelons aux pécheurs que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chapitre 2. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Premièrement, au moment où le Seigneur s'assiera sur le grand trône blanc pour juger les morts, la terre et le ciel s'enfuiront de devant sa face, et il ne sera pas trouvé de lieu pour eux. Apocalypse 20, verset 11.
Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux.
L'apôtre Pierre donne des renseignements précis sur la destruction de la terre et du ciel astronomique.
Des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistante au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Et, dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous, et les éléments embrasés se fondront, de Pierre 3, verset 5 et suivant.
Ainsi donc, alors que le monde d'autrefois a été détruit par le déluge, le monde actuel le sera par le feu, mais il s'agira alors d'un anéantissement total et définitif, et qui de plus atteindra aussi le ciel astronomique. D'autres passages de l'Écriture confirment cette vérité solennelle.
Tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, et ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Psaume 102, versets 25 et 26, Hébreux 1, versets 10 à 12. Le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, verset 35.
Qu'adviendra-t-il des saints du millénium pendant ce cataclysme? Aucun passage ne nous renseigne sur ce point, mais nous pouvons admettre qu'ils seront transmués et préservés. Une citation de William Kelly, Étude sur l'Apocalypse, page 214. La chair et le sang, nous le savons, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. D'après la donnée générale des Écritures, nous pouvons donc être tout à fait certains que ces saints, préservés de cette universelle dissolution du ciel atmosphérique et de la terre, seront transportés sous les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où la justice habite, et cela dans une condition nouvelle, appropriée à l'état éternel où ils seront introduits. Fin de citation. Deuxièmement, la parole de Dieu ne décrit pas en détail ce que sera le ciel, sans doute parce que notre condition humaine actuelle ne nous permettrait pas de saisir les merveilles qui nous seraient ainsi révélées. L'apôtre Paul, ravi jusqu'au troisième ciel, c'est-à-dire le séjour de Dieu, déclare qu'il y a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. De Corinthiens 12, verset 4.
Il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer.
C'est dire que nous ne pourrons jamais nous faire qu'une idée incomplète de la félicité qui règne dans ce lieu béni, pas plus que de la gloire qui sera la part des rachetés durant l'éternité. La parole précise, en revanche, clairement ce qui n'existera plus sur la nouvelle terre. Les choses qui ne seront plus sont au nombre de sept. Cinq sont mentionnées en Apocalypse 21, verset 1 à 4, la mer, la mort, le deuil, l'écrit, la peine, et deux en Apocalypse 22, verset 3 et 5, à propos de la sainte cité durant le millénium, plus de malédiction, plus de nuit, état qui subsistera sur la nouvelle terre.
Apocalypse 21, verset 1 à 4, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Apocalypse 22, versets 3 et 5. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe, et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles.
1. La mer ne sera plus. La mer, image de la confusion tumultueuse, aura disparu. Tout sera mis en ordre et rétabli dans une relation harmonieuse et heureuse avec Dieu. Tous les rachetés seront arrivés au port. Plus de tempête, plus de péril, plus de détresse. Psaume 107, versets 23 à 32.
Ceux qui descendent sur la mer, dans des navires, qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les eaux profondes. Il a commandé et a fait venir un vent de tempête qui souleva ses flots. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leurs âmes se fondent de détresse. Ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses. Il arrête la tempête, la changeant en calme, et les flots se taisent. Et ils se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées, et il les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'ils l'exaltent dans la congrégation du peuple, et le louent dans l'assemblée des anciens.
Plus de mystère, plus de pourquoi à l'égard des voies actuelles de Dieu envers les siens. Psaume 77, verset 19.
Ta voix est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues.
Tout sera révélé, et les bien-aimés de Dieu célébreront ses merveilles. 2. La mort ne sera plus. Annulée dès maintenant par notre Sauveur Jésus-Christ, de Timothée 1, verset 10, engloutie en victoire à la résurrection des morts et à la transmutation des vivants, Elle sera alors abolie. 1 Corinthiens 15, verset 26.
2 Timothée 1, verset 10, mais qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort.
Plus jamais aucun racheté ne subira son empire, plus jamais l'âme d'aucun d'eux ne sera séparée de son corps. Apocalypse 20, verset 14, présente une personnification de la mort, le lieu où résident les corps, et du Hadès, le lieu invisible où résident les esprits. Ils sont jetés dans l'étang de feu. C'est alors que s'accomplira la prophétie de l'apôtre Paul,
« Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. » 1 Corinthiens 15, versets 25 et 26.
La mort, ce plus terrible ennemi de l'homme, a été vaincue par Christ à la croix. Mais alors, elle sera abolie. Elle cessera d'exister. Elle disparaîtra parce que les traces du péché auront été effacées pour toujours. Tous les hommes seront dans la condition de ressusciter. Les rachetés pour habiter le domaine des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, les impies pour être jetés dans l'étang de feu. La mort sera désormais sans pouvoir sur les uns et les autres, c'est pourquoi elle sera abolie. Le Hadès aura rendu ses derniers occupants pour qu'ils comparaissent devant le grand trône blanc. Il disparaîtra donc également. Dès lors, il ne restera plus que l'éternité, état hors du temps, immuable, fixe, définitif, absolu. Il y a là une notion qui échappe à notre esprit limité. Éternité de bonheur pour les rachetés, éternité de malheur pour les impies. 3. Il n'y aura plus de deuil. Ce sera la conséquence de l'abolition de la mort. Si, aujourd'hui,
l'homme s'en va dans sa demeure des siècles, et ceux qui mènent deuil parcourent les rues, Ecclésiaste 12, verset 5.
Alors les rachetés en auront fini avec les deuils et les séparations d'ici-bas. 4. Il n'y aura plus de cris, expression de la souffrance humaine, quelle qu'en soit la cause, maladie, détresse, privation, injustice, mort.
Des villes sortent les soupirs des mourants, et l'âme des blessés à mort crie, Job 24, verset 12.
Toutes les conséquences du péché disparaîtront et, avec elles, prendra fin cette longue plainte que l'humanité ne cesse d'exhaler depuis la chute. 5. Il n'y aura plus de peine. Les hommes se tourmentent sous le soleil pour toute espèce de buts et de raisons.
Qu'est-ce que l'homme a de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil? Car tous ses jours sont douleur et son occupation est chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas, Ecclésiaste 2, versets 22 et 23. Cette peine et ce tourment feront place à une sérénité que rien ne viendra troubler.
6. Il n'y aura plus de malédiction. La malédiction que Dieu a prononcée contre la terre après la désobéissance d'Adam et d'Ève sera annulée. Le péché n'existant plus, la malédiction qu'il avait amenée disparaîtra sans laisser aucune trace, et Dieu pourra, au contraire, déverser sur la nouvelle création le flot abondant de sa bénédiction. 7. Plus de nuit.
Et la cité n'aura pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Il n'y aura pas de nuit là. Apocalypse 21, versets 23 et 25, et 22, verset 5.
Comme nous l'avons dit, ce passage, bien que se rapportant à la sainte cité durant le millénium, est aussi applicable à l'état éternel. En effet, tout sera clair, pur, transparent sur la nouvelle terre. Plus de questions sans réponse, plus d'ignorance, plus d'erreurs.
Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12.
Troisièmement, nous lisons en 2 Pierre 3, verset 13,
« Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. »
Durant le millénium, la justice régnera, tandis qu'elle habitera sur la nouvelle terre. c'est que Dieu lui-même habitera avec les hommes et sera leur Dieu. De plus, le tabernacle de Dieu, l'Église, appelée la Nouvelle Jérusalem, sera aussi avec eux.
Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, « Voici l'habitation,
ou le tabernacle,
de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Apocalypse 21, versets 2 à 4.
Cette sainte cité, la Nouvelle Jérusalem, sera donc elle-même la demeure de Dieu, ce qui fait ressortir la position distincte et privilégiée que l'Église occupera durant l'éternité. Elle aura sans doute des relations avec les hommes, mais ne sera pas confondue avec eux comme nous l'avons vu occuper une place à part durant le millénium. Elle conservera à jamais son titre d'épouse de l'agneau et les prérogatives qui s'y rattachent. Pareillement, Christ gardera éternellement son caractère de chef et d'époux de l'Assemblée, même après qu'il aura remis le royaume à Dieu le Père. L'Église est considérée quant à ce qu'elle sera alors, petit a, pour les hommes, une sainte cité d'origine céleste et divine, petit b, pour Jésus, une épouse ornée aussi belle qu'au jour des noces célébrées 1000 ans auparavant, petit c, pour Dieu, une habitation, un tabernacle. L'importance de ce dernier caractère est mise en évidence par cette grande voix venant du ciel, et qui proclame « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes ». C'est l'accomplissement enfin parfait de tous les desseins de Dieu et des vœux de son amour. C'est cela qu'il avait en vue depuis qu'il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden et, par la suite, au cours de toutes ses voies envers lui. Tels étaient le conseil de l'Éternel qui subsiste à toujours, et les desseins de son cœur qui sont de génération en génération. Psaume 33, verset 11.
Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur de génération en génération.
On peut distinguer 7 phases successives dans l'accomplissement de ces desseins. Les 6 premières phases se sont achevées par un échec imputable à la désobéissance de l'homme qui, malgré les tentatives toujours renouvelées de Dieu d'habiter avec lui, s'est révolté contre son Créateur. Et la 7e phase de ce plan en marquera l'aboutissement triomphal et définitif, car alors il ne sera plus question de la responsabilité de l'homme. Énumérons brièvement ces 7 phases. Première phase. Dans le jardin d'Éden, Dieu entretenait une relation directe avec Adam. Une note en bas de page. Bien que l'on ne puisse dire que Dieu habitait avec l'homme dans le jardin d'Éden, le terme « habitation de Dieu avec les hommes » n'est employé par l'Écriture qu'après la rédemption qui nous est présentée en rapport avec Israël, racheté du pays d'Égypte. Exode 15, verset 2.
Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai.
Reprise de la lecture, cette relation fut rompue par le péché. Deuxième phase, Dieu a habité avec les hommes lorsque sa gloire a rempli le tabernacle achevé par Moïse. Exode 40, versets 34-35.
Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.
Cette relation de Dieu avec les hommes fut rompue par suite de l'infidélité du peuple d'Israël. Psaume 78, versets 56 à 61.
Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu Très-Haut et ne gardèrent pas ses témoignages, et se retirèrent et agirent infidèlement, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Et ils le provoquèrent à colère par leurs hauts lieux, et l'émurent à jalousie par leurs images taillées. Dieu l'entendit et se mit en grande colère, et il méprisa fort Israël. Et il abandonna la demeure de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes. et il livra à la captivité sa force et sa magnificence en la main de l'ennemi.
Troisième phase, la gloire de l'Éternel a rempli la maison de Dieu construite par Salomon. De Chroniques 5, versets 13 et 14.
Et il arriva, lorsque les trompettes et les chantres furent comme un seul homme, pour faire entendre une même voix, en louant et en célébrant l'Éternel, et qu'ils élevèrent la voix avec des trompettes et des cymbales et des instruments de musique, en louant l'Éternel de ce qu'il est bon, parce que sa bonté demeure à toujours, il arriva que la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
Mais, là encore, Israël et ses rois ont failli à leurs responsabilités, et cette relation de Dieu avec les hommes fut rompue comme les précédentes. Jérémie 7, versets 12 à 15.
Car allez à mon lieu qui était à Silo, où j'ai fait demeurer mon nom au commencement, et regardez ce que je lui ai fait à cause de l'iniquité de mon peuple Israël. Et maintenant, parce que vous avez fait toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et que vous n'avez pas écouté, et que je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je ferai à cette maison qui est appelée de mon nom, en laquelle vous avez mis votre confiance, et au lieu que je vous ai donné, à vous et à vos pères, comme j'ai fait à Silo, et je vous chasserai de devant ma face, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la semence d'Éphraïm.
Aussi la nuée se retira du temple, Ézéchiel 10, versets 4 et 18.
Et la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin, et vint sur le seuil de la maison, et la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel sortit de dessus le seuil de la maison, et se tint au-dessus des chérubins.
Ézéchiel 11, versets 22 et 23.
Et les chérubins levèrent leurs ailes, et les roues étaient auprès d'eux. Et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux en haut, et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville, et se tint sur la montagne qui est à l'orient de la ville.
Quatrième phase, une quatrième fois Dieu vient habiter avec les hommes, lorsque la parole devint chair et habita, ou dressa tabernacle, au milieu de nous, Jean 1, verset 14.
Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité.
Dieu était en Christ avec les hommes. Hélas, le monde ne l'a pas connu. Les siens ne l'ont pas reçu. Il fut rejeté et il s'en alla de ce monde au Père. Cinquième phase. En cinquième lieu, Dieu vint habiter avec les hommes par la présence du Saint-Esprit dans l'Église, qui est la maison et le temple de Dieu ici-bas. 1 Corinthiens 3, verset 16.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Mais l'Église, considérée dans sa responsabilité, a failli autant qu'Israël. Elle va finir par une apostasie complète et sera vomie de la bouche de Christ. Apocalypse 3, verset 16.
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
Sixième phase. Dieu habitera encore avec les hommes sur cette terre, durant le millénium, dans le temple décrit par Ézéchiel. Mais cette relation-là sera aussi rompue. Satan, sortant de sa prison, s'emparera de tous les cœurs des hommes irrégénérés. Les nations égarées se révolteront une dernière fois contre Dieu, mais le feu descendra du ciel et les dévorera. Septième phase. Dieu accomplira néanmoins ses desseins. L'état éternel s'ouvre sur cette proclamation solennelle de la grande voix venant du ciel. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Désormais, la responsabilité de l'homme n'est plus en jeu. Tout dépend des conseils de Dieu et de l'œuvre de Christ à la croix.
Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Romains 11, versets 33 à 36.
Quatrièmement, toutes choses seront donc faites nouvelles, et Dieu le certifie lui-même en disant à l'apôtre Jean,
« Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. »
Tout sera achevé, plus rien ne restera à faire.
Et il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Apocalypse 21, versets 5 et 6.
Une citation d'Henri Rossier, « Le « c'est fait » définitif de la nouvelle création est établi sur le « c'est accompli » de la croix. » Fin de citation. En effet, si la nouvelle création est pure de toute souillure, ce sera en vertu de l'efficace du sang de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute trace de péché aura disparu, et le mal, sous quelque forme que ce soit, aura été ôté de l'univers. Toutes choses seront réconciliées avec Dieu, et Dieu sera tout en tous. Comme on l'a écrit, le commencement et la fin se confondent, la première et la dernière page de la Bible se ressemblent. L'écriture débute et s'achève par le paradis. Mais la fin est plus belle que le commencement, l'oméga plus grandiose que l'alpha. Le paradis futur n'est pas l'ancien retrouvé, c'est le paradis céleste éternellement glorifié. C'est Dieu qui est le point de départ comme l'aboutissement de toute chose. Avec Moïse, le croyant peut s'écrier
« D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Psaume 90, verset 2.
Le ciel, c'est la présence de Dieu. Dieu le Père, l'ancien des jours, dont le prophète Daniel décrit la gloire et la majesté.
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Daniel 7, versets 9 et 10.
Autour de ce trône qui soutient et gouverne l'univers, se tiendront les multitudes de rachetés et d'anges qui, sans fin, adoreront, loueront et serviront Dieu, celui que l'apôtre Paul appelle
le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. 1 Timothée 6, versets 15 et 16.
Ce grand Dieu a formé le plan merveilleux de nous avoir pour toujours avec lui et de nous faire partager sa gloire. Dieu le Fils, Jésus-Christ, occupera, dans l'éternité future, la première place avec son Père comme il l'occupait dans l'éternité passée. Proverbe 8, versets 22 et suivants.
L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait pas de source pleine d'eau. Avant que les montagnes fussent établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté, lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là, quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent à ce point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes.
La parole nous le montre fréquemment assis sur le trône de Dieu ou à la droite de la majesté. Cette prérogative découle de son œuvre à la croix. C'est parce qu'il s'est anéanti lui-même que Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 5 et suivants.
Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et, Étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Néanmoins, il a conservé et conservera à jamais les traits de son humanité glorifiée. Jésus, nous ayant préparé une place dans la maison de son Père par sa mort, sa résurrection et son assomption, nous y accueillera et nous fera asseoir avec lui sur son trône. Apocalypse 3, verset 21.
Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.
Lorsqu'il aura ainsi rassemblé ses rachetés dans la gloire, et que tous ses ennemis auront été anéantis, il remettra le royaume à Dieu le Père.
Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 28.
Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, intimement uni au Père et au Fils, continuera à agir durant toute l'éternité. Pour le racheter encore ici-bas, il est le gage de l'héritage céleste. Éphésiens 1, 14.
Du Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire.
Mais dans le ciel, les saints seront par l'Esprit remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 3, verset 19, et posséderont non plus seulement les arts de l'héritage, mais l'héritage lui-même.
Éphésiens 3, verset 19, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toutes les connaissances, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Ainsi, Dieu sera tout en tous, et les rachetés jouiront sans fin des trésors de la maison du Père. Cinquièmement, quels seront les trésors constituant l'héritage? Petit a, la gloire.
Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Jean 17, verset 24. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, Matthieu 13, verset 43. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité, Daniel 12, verset 3. Non seulement nous partagerons la gloire du Seigneur, mais nous lui serons semblables, Philippiens 3, verset 21. Jésus-Christ comme Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même à toute chose.
Petit b, le bonheur. Les rachetés jouiront d'un bonheur et d'une paix parfaits.
Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17.
Ils seront consolés à jamais de toutes leurs souffrances.
Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. Ésaïe 66, verset 13. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21, verset 4.
Petit c, l'amour. Le ciel sera, durant l'éternité, le séjour de l'amour parfait. Dieu est amour, et il en remplira le ciel. Comme il sera tout en tous, les rachetés seront remplis de son amour.
Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13.
Nous connaîtrons alors d'une manière parfaite l'amour de Dieu révélé en Jésus, et nous l'aimerons comme lui nous aime. Ainsi se réalisera pleinement le vœu que le Seigneur Jésus exprima avant d'aller à la croix.
Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Jean 17, verset 26.
petit dé, la sainteté.
Et il n'y entrera,
dans la sainte cité,
aucune chose souillée, Apocalypse 21, verset 27.
Dieu est saint et le ciel est la demeure de sa sainteté, Ésaïe 6, verset 3.
Et l'un criait à l'autre et disait, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire.
Ésaïe 57, verset 15.
Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est le saint. J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus.
Mais ce lieu est aussi le séjour de la beauté et de la magnificence.
Son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. Psaume 111, verset 3.
Ce qui fait la splendeur du ciel, c'est la présence de Dieu lui-même, source de toute perfection.
De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait luire sa splendeur. Psaume 50, verset 2. Toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur. Psaume 80, verset 1. Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Ésaïe 33, verset 17.
Petite l'unité et la perfection. Il n'y aura au ciel plus aucune division, mais Dieu achèvera son dessein éternel
de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Éphésiens 1, verset 10.
Cette unité et cette perfection procéderont de notre identification avec Christ.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 1 Jean 3, verset 2.
Nous lui serons semblables, tous, sans exception. Il en résultera pour les saints une unité et une perfection absolue. Tous seront parvenus à la plénitude de l'homme parfait en Christ. Colossiens 1, verset 28. Et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 13.
Colossiens 1, verset 28, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ.
Cette croissance, commencée ici-bas, atteindra son plein épanouissement dans le ciel. Petit f, l'éternité. Au ciel, le temps n'existera plus. La division du temps en heures, jours, mois, années, etc., appartient à la terre où tout commence et finit. D'ailleurs, nous sommes exhortés à demander à Dieu de nous enseigner à compter nos jours, afin d'en acquérir un cœur sage, psaume 90, verset 12, car le nombre en est bref.
Psaume 90, verset 12, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage.
Dans le ciel, il n'y aura plus de temps ni de délai, et rien ne viendra marquer la fuite des années, comme c'est le cas ici-bas. Les rachetés jouiront de la vie éternelle. Ils seront pour toujours avec le Seigneur, et rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
1 Thessaloniciens 4, verset 17.
Nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Romains 8, verset 38-39.
Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Apocalypse 22, verset 5.
Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles.
Véritablement, les choses vieilles seront passées et toutes seront faites nouvelles. Fini le temps, aboli la mort, ce sera le règne de l'immortalité sous le signe de l'éternité. Sixièmement, quelle sera l'occupation des rachetés? Nous avons vu que le ciel sera pour le racheté un lieu de bonheur parfait dans la lumière et la gloire de la présence de Christ. Mais l'Écriture nous renseigne aussi sur ce que nous y ferons. Notre activité peut se résumer en trois mots, adoration, repos, service. Petit a, l'adoration. Dieu cherche sur la terre déjà des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 24.
Mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
C'est la joie et le privilège de ceux qui ont été sauvés de la mort et du jugement éternel que d'exprimer à Dieu, dès ici-bas, la reconnaissance et l'adoration qui lui sont dues. Et ce sera leur occupation principale durant l'éternité de poursuivre d'une manière parfaite ce service si élevé et si précieux au cœur de Dieu. Or, le sujet et l'objet de notre adoration seront, dans la gloire comme ici-bas, le Père et le Fils. La personne et l'œuvre de Christ, notre bien-aimé Sauveur, son amour, son abaissement, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, ses gloires, ce qu'il fut et ce qu'il sera pour le cœur de Dieu le Père, constitueront les thèmes principaux de notre louange. L'objet de notre adoration étant infini, nous ne parviendrons jamais à l'épuiser. Par conséquent, non seulement elle ne cessera ni ne fléchira, mais, au contraire, elle ira croissant et s'élevant au fur et à mesure que nous pénétrerons plus avant dans la jouissance de la personne et de l'œuvre de Christ. Cette adoration s'exprimera par des chants de louanges, comme nous en entendons retentir à plusieurs reprises dans les scènes symboliques de l'Apocalypse. À nos voix, les anges joindront parfois les leurs, quoique les motifs d'adoration, des rachetés, soient différents de ceux qui occuperont les anges, qui n'ont pas été les objets de l'amour de Dieu comme nous-mêmes. Ils n'ont pas été sauvés de la mort. Le sacrifice et la victoire de Christ ne leur étaient pas destinés. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Néanmoins, ils louent Dieu depuis l'éternité passée et poursuivront ce service durant l'éternité future en compagnie des rachetés. Mais l'adoration de ceux-ci s'exprimera aussi par une contemplation muette et fervente. Il y aura d'éloquents silences dans le ciel.
Ces esclaves verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, verset 3.
Alors que l'homme sur la terre, fût-il un racheté, ne peut voir Dieu sans mourir, Exode 33, verset 20, les saints glorifiés pourront paraître devant lui et le contempler dans la face de Christ.
Exode 33, verset 20, et il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. »
Bien plus, ils porteront son nom sur leur front. Témoignage irrécusable qu'ils lui appartiendront. Dans le ciel, les regards de tous seront fixés sur cette glorieuse personne, sans qu'aucun obstacle ni aucune distraction vienne les en détourner, parce que nous désirerons le connaître toujours mieux. Job se réjouissait à cette pensée.
Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et de ma chair je verrai Dieu, que je verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. Job 19, versets 25 à 27.
Chaque racheté au céleste séjour pourra lui aussi contempler pour lui-même la face de son Sauveur. Alors, dans l'extase muette, tous ensemble, ils jetteront leur couronne à ses pieds et se prosterneront. Nos yeux contempleront sur ta face adorable du Sauveur, de l'Époux, la suprême beauté. Et nous pourrons sonder le mystère insondable de ta grâce sans borne et de ta charité. Le psalmiste exprime lui aussi son ardent désir de voir le Seigneur.
J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Psaume 27, verset 4. Moi, je verrai ta face en justice. Quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. Psaume 17, verset 15. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Psaume 42, verset 2.
Ainsi, chants de louange et adoration muette se succéderont durant l'éternité, à la gloire de Dieu et de Christ, dans une harmonie parfaite qui laissera loin derrière elle les accents de notre louange actuelle. Petit b, le repos. La vie du croyant ici-bas est faite de luttes incessantes et d'épreuves diverses. Il ne peut jamais déposer l'armure complète de Dieu, et même lorsqu'il a remporté une victoire, il doit non point se reposer, mais tenir ferme. Éphésiens 6, verset 13.
C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme.
Le repos est pour le ciel. Certes, nous pouvons en jouir dès maintenant par la foi. Hébreux 4, verset 8 à 11.
Car si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas parlé après cela de notre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance.
Mais il ne devient une réalité éternelle que lorsque nous sommes arrivés au port céleste, et il n'atteindra sa pleine et complète signification qu'après le retour de Christ, où tous les saints ressuscités ou transmués entreront dans la gloire. De Thessaloniciens 1, verset 7.
Que de vous donner, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance en flammes de feu.
Alors, en effet, ce repos sera enrichi par l'adoration des saints glorifiés. Petit c, le service.
Et ses esclaves le serviront, Apocalypse 22, verset 3.
Aucun passage ne nous permet de préciser en quoi ce service consistera. Il s'agira, pour les racheter, d'accomplir la volonté du Seigneur dans tout ce qu'il leur confiera en rapport avec sa gloire. Ce service sera parfait et satisfera pleinement le cœur de celui pour l'amour duquel il sera accompli. Quelle part glorieuse et infiniment bénie! Tous les pécheurs peuvent se l'approprier en acceptant simplement le salut qui leur est offert aujourd'hui par le Seigneur Jésus. Il y a place pour eux tous dans le ciel. Partout retentit le message que le roi fait proclamer depuis près de 2000 ans. Tout est prêt, venez aux noces. Avant de clore le Saint-Livre, il adresse un ultime appel à ceux qui ont soif de pardon, de paix et de vrai bonheur.
À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse 21, versets 6 et 7 et 22, verset 17.
Lecteur qui parcourait ces lignes, avez-vous déjà répondu à son appel? Sinon, ne renvoyez pas à plus tard, venez à Jésus aujourd'hui. Décidez-vous franchement pour lui. Acceptez cette eau de la vie, ce salut qu'il offre gratuitement à tous les pécheurs. Il a fait ce qui était nécessaire pour vous ouvrir l'accès du ciel. À vous de décider si vous y passerez l'éternité ou si vous serez jeté dans l'étang de feu. Écoutez une fois de plus les paroles de Jésus.
En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24.
Introduction à l'étude de la prophétie. Conclusion. Quels effets l'attente du Seigneur doit-elle exercer sur nos vies? Petit a, la joie. La perspective d'être bientôt enlevés à la rencontre du Seigneur, notre bien-aimé Sauveur, d'être ainsi délivrés des épreuves du temps présent et introduits pour l'éternité dans la gloire céleste, cette perspective, disons-nous, est un magnifique sujet de joie et de consolation pour le racheté.
car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Philippiens 3, versets 20 et 21. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Tite 2, verset 13. Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, Jude, verset 21. Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi le salut des âmes. Réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. 1 Pierre 1, verset 8, 9 et 4, verset 13.
À la joie d'être délivré des épreuves de la terre, de jouir de la présence du Seigneur et de partager sa gloire, s'ajoute aussi, pour les rachetés, celle d'être réunis aux êtres chers qui les ont précédés dans les tabernacles éternels.
Ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et suivant.
Enfin, la certitude du retour de Christ comble d'une joie toute particulière ceux qui ont souffert pour lui.
Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront et quand ils vous retrancheront de leur société et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. Luc 6, versets 22 et 23. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents, Hébreux 10, verset 34. Mais la proximité du retour du Seigneur implique aussi une grande responsabilité pour le croyant. Il s'agit, en effet, qu'à son retour, le Maître ne nous trouve ni endormis, ni enlacés dans les filets du péché, ni embarrassés dans les choses de la terre. De ce triple danger découle une triple responsabilité, savoir la responsabilité d'être vigilant, de réaliser une sanctification constante, de servir le Seigneur avec zèle et fidélité.
Petit b, la vigilance. Le chrétien qui attend vraiment le Seigneur est semblable à un soldat qui fait partie d'une troupe en état d'alarme. De même que cette troupe est prête à entrer en action dès que retentit l'appel aux armes, de même, ce chrétien-là tend l'oreille pour percevoir le cri « Voici l'époux !» dès qu'il se fera entendre dans la nuit. « Soyez prêts, veillez !» Tel est le mot d'ordre qui s'adresse à chacun de nous.
Connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est fort avancée, et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, versets 11 et 12. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Matthieu 24, versets 42 et 44. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Marc 13, verset 33. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'ils reviennent des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. Vous donc aussi, soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient, Luc 12, verset 35 et suivant.
Avoir les reins sains, c'est être prêt à partir à tout moment, comme les Israélites dans la nuit de la Pâque en Égypte, Exode 12, verset 11.
Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte.
Mais, pour être prêt à partir, il faut avoir tout préparé pour le voyage, s'être débarrassé de tout ce qui pourrait faire obstacle à un départ immédiat, que le maître revienne aujourd'hui ou plus tard. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, nous risquons fort de ne pas l'être davantage lorsque le Seigneur viendra. Quelle honte pour nous s'il devait nous trouver dormants. Aussi, gardons-nous du sommeil spirituel.
Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 6.
Dormir, c'est vivre dans l'indifférence quant au retour du Seigneur. C'est suivre le penchant du cœur naturel qui dit
« Mon maître tarde à venir » Luc 12, verset 45.
C'est se laisser accaparer par les choses de la terre.
Et prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Veillez donc, priant en tout temps, Luc 21, verset 34-36.
Cette mise en garde du Seigneur nous amène à aborder le deuxième aspect de notre responsabilité en rapport avec son retour. Petit c, la sanctification. Elle consiste pour le croyant à se séparer du mal sous toutes ses formes, à rejeter ce qui pourrait faire obstacle à l'attente du retour de Christ.
Toutes ces choses devant donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix. 2 Pierre 3, verset 11 et suivant. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ. Philippiens 1, verset 6 et suivant.
Voir aussi 1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13.
Et quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
1 Corinthiens 1, versets 7 et 8.
De sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ.
1 Timothée 6, versets 13 et 14.
Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toute chose à l'existence, et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement, sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tite 2, versets 11 à 13.
Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Mais le croyant qui attend le Seigneur est appelé encore à le servir avec zèle et fidélité. Car veiller, c'est aussi persévérer au poste que le Seigneur nous a confié et accomplir la mission reçue de lui, aussi bien sur le plan matériel que spirituel.
Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sous les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Matthieu 24, versets 45 à 47.
Lire aussi Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30.
Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, et à un autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla, et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Maître, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'as remis 2 talents, et voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître répondant lui dit, « Méchante et paresseuse esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et quand je serai venu, j'aurai reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. »
Luc 12, versets 42 à 46.
Et le Seigneur dit, « Qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison, pour leur donner au temps convenable leur ration de blé? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en 2 et lui donnera sa part avec les infidèles. »
Luc 19, versets 11 à 27.
Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, « Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines, et leur dit, « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. » Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Et il arriva, à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, et autorité sur 10 villes. » Et le second vint, disant, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint, disant, « Maître, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? Et quand je serai venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines, car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. »
Les Thessaloniciens n'attendaient pas seulement le Seigneur, mais ils servaient aussi le Dieu vivant et vrai. Voudrions-nous paraître les mains vides devant lui, ayant refusé d'accomplir le service, si humble soit-il, qu'il aurait désiré nous confier? C'est pendant l'absence du Maître qu'il faut faire fructifier les talents. Le grain semé produira l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Au jour de la moisson, aimerions-nous présenter au Seigneur des gerbes lourdes et riches de grains, ou des épis vides? Le méchant serviteur de Matthieu 25 est condamné, non point pour avoir mal fait, mais pour n'avoir rien fait. travailler, servir, porter du fruit, mais aussi témoigner. Il faut que le croyant soit une lumière qui brille pendant la nuit et l'absence de son maître. La lampe, une fois allumée, ne doit pas être mise sous le boisseau, étouffée par les affaires de la vie, mais sur le pied de lampe.
Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.
Témoignage envers nos proches, nos voisins, nos collègues de travail. Et,
afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Témoignage à l'égard des inconnus, des hommes en général, Matthieu 5, 15 et Luc 11, 33. Puisse notre lumière briller avec éclat autour de nous, et que rien dans notre marche ne ternisse notre témoignage et ne déshonore le nom du Seigneur. Puissions-nous, comme les vierges sages, aller au-devant de l'époux pour l'accueillir, en abandonnant résolument tout ce qui pourrait lui déplaire, et en faisant briller de tout son éclat la lampe qu'il nous a confiée. L'attente du Seigneur produit-elle réellement en nous la joie, la vigilance, la sanctification, le zèle à son service, la fidélité dans le témoignage? Si ces choses sont en nous et y abondent, elles feront que nous ne serons pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. De Pierre 1, verset 8 à 11. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez, et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Jude, versets 24 et 25. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Apocalypse 22, versets 20 et 21.